On aimerait commencer, si vous pourriez aller vous asseoir. Alors, merci sur notre séance sur l'accès, l'ADPIC et puis les pièges à éviter. Alors, on va commencer maintenant pour avoir un peu de place pour la discussion à la fin. On leur donnera 10 minutes par conférencier pour garder assez de temps pour la discussion. On ne sera pas trop dur si vous continuez un peu plus longtemps, mais on aimerait quand même garder un peu de temps à la fin. Je suis Greg Gonzalez avec l'Alliance contre le VIH-Sida d'Afrique du Sud. Et notre premier conférencier sera Jonathan Berger, chercheur principal et directeur de la recherche au AIDS Law Project en Afrique du Sud, qui travaille étroitement avec le Treatment Action Campaign. Il parlera du VIH-Sida et de la lutte de l'État sud-africain contre la science. Le ministre de l'Afrique du Sud a affirmé qu'il voulait se différencier du Dr. Rapt, que si on pouvait montrer que si les médicaments qu'il propose sont toxiques pour les gens qui vivent avec le VIH-Sida. Il y a tout le tort posé par Rapt, c'est le monsieur à la droite de la diapo. La prescription et la distribution de médicaments non autorisés, la tenue de cette clinique non autorisée. Le ministre sud-africain a refusé d'utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour empêcher cette dangereuse campagne. Plutôt, elle continue à mener une guerre calculée et coordonnée contre la science et contre ceux qui dépendent de la science pour réagir contre l'épidémie du VIH-Sida. Dans la présentation d'aujourd'hui, je veux parler de trois problèmes. Premièrement, quelques points d'introduction. Pour clarifier le résumé que j'ai présenté, parce que je m'écarte en quelque sorte du résumé publié. Et je vais parler de la nature de la présentation. Je parlerai également des quatre piliers de la guerre contre la science. Et comme vous le constaterez, je ne crois pas que la guerre contre la science se limite au déni du sida. C'est un aspect de la guerre, mais il y a d'autres aspects également. Je vais examiner les rapports entre ces quatre piliers et, si le temps le permet, je présenterai certains exemples tirés de trois des quatre piliers que j'ai identifiés. Probablement que je manquerai de temps à un moment de la fin, mais je conclurai sur la voie suivante pour l'avenir. Le résumé que j'ai soumis parle des étapes que la société civile sud-africaine a prises pour que l'État protège le public contre les activités illégales de M. Rapt. On parle du contexte dans lequel la campagne de Rapt a prospéré, de même que du rapport entre les obligations constitutionnelles de l'État en ce qui concerne l'accès aux soins et puis sur la nécessité de l'État de défendre la médecine basée sur les conclusions scientifiques. Ce que j'ai compris au cours de cette conférence, c'est que de nobles idées ne peuvent pas être expliquées en l'espace de 15 minutes, et comme on a juste 10 minutes, je ne pourrai pas vous parler de toute la guerre contre M. Rapt en Afrique du Sud. Vous pouvez toujours aller au site du Action Campaign, au site web, et tout est là présenté très, très nettement. Je ne vais pas vous parler d'arguments universitaires ou de jurisprudence. Ça se produira lorsqu'on sera devant les tribunaux. Plutôt, je veux parler du contexte plus général pour comprendre comment on a créé un milieu où des charlatans et des escrocs comme Mathias Rapt et d'autres peuvent vendre leurs produits non homologués et causer le tort qu'ils causent présentement. J'ai toujours cru que le problème, ce ne sont pas les gens comme Rapt, ce sont plutôt les gens qui lui permettent de poursuivre ses activités. Le résumé mentionne une campagne commanditée par l'État en faveur de médicaments non testés. J'y réfléchis un peu, et surtout à la lumière d'événements récents, et je crois que c'est plus complexe que cela. J'ai identifié deux autres enjeux qui structurent notre contexte, et je crois qu'il y a en fait quatre piliers dans cette guerre. Je n'entrerai pas dans les détails, faute de temps. Mais premièrement, il y a l'échec du président Mbeki à clairement et de manière décisive s'attaquer, ou plutôt de rompre ouvertement avec le déni de la réalité du sida. Est-ce qu'il nie toujours les évidences scientifiques sur le sida? On croit qu'il n'a pas changé de position, mais il reste ambigu. Mais il n'a certainement pas pris de position ferme. Deuxièmement, le deuxième pilier, c'est la campagne commanditée par l'État qui fait la promotion de médicaments non testés. On déforme la réalité. On soulève des questions légitimes par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais d'une manière très sournoise et en invoquant l'héritage colonial, les systèmes de médecine traditionnelle, et puis la méfiance, et puis envers les pharmaceutiques, etc. Troisièmement, en tolérant des dérogations à la loi, je parle ici de la loi sur la médecine qui traite de l'homologation et de l'utilisation des médicaments, de même que la réglementation des essais cliniques. Et finalement, il y a ce que j'appelle une tentative systématique d'augmenter les pouvoirs de l'exécutif et de réduire le Parlement à un site d'approbation sans aucune autorité, en minant les pouvoirs des autorités médicales et en centralisant les pouvoirs dans les mains du ministre, en lui donnant des pouvoirs discrétionnaires peu délimités et beaucoup trop larges. Peut-être que certaines de ces choses s'appliquent au pays juste au sud de votre frontière. Ces quatre piliers sont à la base de l'épidémie de pseudo-science en Afrique du Sud. Ils se regroupent et se renforcent les uns les autres. Ils sont dangereux pris seuls, mais lorsqu'ils fonctionnent ensemble, c'est là qu'ils deviennent une attaque frontale contre la science. Je ne parlerai pas du soutien que le président Mbeki donne au déni du sida, c'est bien documenté. Je ne peux pas penser à une seule publication officielle, aucun discours, aucun commentaire apporté où le président Mbeki prend ses distances par rapport à ses positions précédentes. C'est que nous avons plutôt, pour reprendre Sapiro, le caricature le plus connu de l'Afrique du Sud, c'est qu'on a une présentation systématique de présentations qui portent à confusion. Le président dit, on n'a pas dit cela, c'est pas ce qu'on a dit, on a changé sa position, on ne sait pas. Est-ce que le VIH cause le sida? Est-ce que les antirétroviraux fonctionnent? Les médias ne rapportent jamais la position du président ou de l'État sur cette question. Bon, je n'ai pas le besoin d'élaborer davantage. Le deuxième pilier concerne les preuves scientifiques et la médecine traditionnelle. Je donnerai un exemple. C'était en février 2004 où on a connu le lancement provincial du Centre de référence pour la médecine africaine traditionnelle. C'était le lancement dans le Cap oriental. La ministre a engagé son département, son ministère, à mobiliser des ressources de tous les milieux pour s'assurer que la médecine professionnelle et ses pratiques puissent être pleinement reconnues et obtenir le soutien qu'il mérite pour la première fois dans notre histoire. Elle a cité une publication du National Reference Center, et elle parle de l'importance de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies qui menacent la vie. Et le document qu'elle cite dit effectivement cela, mais il dit également beaucoup d'autres choses qui, et non pas accidentellement, ont été exclus du discours de la ministre ce jour-là. en particulier ce document de ce qui suit, il n'y a pas aucune preuve scientifique adéquate dans ce domaine particulier. Puis il continue, la popularité des médecines herbales a causé de plus en plus d'inquiétudes par rapport à leur sûreté et leur efficacité. Dans plusieurs pays, ce marché est mal réglementé et des produits ne sont ni homologués ni contrôlés. Les systèmes de surveillance nationale pour détecter et suivre les effets défavorables secondaires sont rares. Des études ont été provoquées, mais ne produisent pas véritablement de données fiables quant à la sûreté, la qualité et l'efficacité de ces médicaments.
Et le texte continue. Il traite d'une étude spécifique de l'hôpital George McCrary, qui est près de Victoria, qui fait part d'autres préoccupations au sujet des médecines traditionnelles et puis d'autres qui identifient d'autres zones d'enquête. Et rien de tout cela a été traité par le ministre. Elle parlait seulement d'un rapport qui faisait l'éloge de la médecine traditionnelle sans aucun mot de caution, de caveat, quel qu'il soit. Et ne parlait pas du tout d'études du conseil. Et je suis sûr que c'était délibéré d'avoir omis cette étude. Bon, il me reste quoi, 5 secondes environ? Et Greg me donne 2 minutes de plus. Merci. Le second domaine concerne... Bon, il s'agit de faciliter les lacunes dans la loi sur les médicaments. Et j'ai préparé un texte qui en traite en plus de détails. Donc, je vais en parler brièvement ici, mais dernièrement, un envoi, une cargaison de médecine, telle que définie par la loi sur les médicaments, bon, des vitamines. Cette cargaison est arrivée à Cape Town et les autorités portuaires n'ont pas permis l'entrée au pays de cette cargaison parce que plusieurs articles de la loi sur les médicaments avaient été enfreints. Et, en fin de compte, on a laissé passer les médicaments et les autorités ont offert une explication très peu satisfaisante et en privé, mes collègues se sont fait dire qu'ils s'étaient fondés sur sa décision, sur des avis juridiques à l'externe et à l'interne. Mais bon, je pense que ces gens-là, ces experts consultés, n'ont pas la même compréhension de la loi que nous en avons, nous. Mais bon, s'il y avait une base, si ça justifiait une intervention ou pas, je ne sais pas. Mais eux se sont dit qu'ils devaient enquêter sur cette question. Mais pourtant, le directeur général s'est dit « Non, vous n'enquêterez pas sur cette cargaison. » Alors donc, pour moi, c'est évident qu'il y a eu une intervention directe et que le ministre abuse de son pouvoir pour empêcher qui que ce soit de prendre action. Et les médicaments, hein, ces comprimés qu'on veut faire entrer au pays, sont sujets à un litige entre l'Association sud-africaine de la médecine et Mathias Rath et le ministère et d'autres parties intéressées. Et alors que ce cas se trouve devant les tribunaux, et à savoir si oui ou non ces médicaments devraient être homologués et si on devrait ou non les distribuer comme on l'a fait, alors qu'on débat donc de ces questions et que ces questions sont décidées par un tribunal, tant que ça ne sera pas réglé, ça reste irresponsable et peut-être voire criminel pour quelques personnes en position d'autorité d'intervenir de telle façon à permettre la distribution de ces médicaments. Je ne vous parlerai pas en détail de cette avant-dernière diapo, autre que de dire que nous avons vu, par exemple, d'autres lois, par exemple, que ce soit la loi sur les médicaments, sur la profession d'infirmière, sur la profession médicale. Le gouvernement a été très constant pour amender, dans l'amendement de sa loi, pour enlever le pouvoir au conseil concerné, qui avait autorité auparavant, et le rôle pour donner plus de pouvoir discrétionnaire au ministre, qui a un rôle démesuré à jouer dans cette prise de décision. Donc, tous les pouvoirs discrétionnaires et décisionnels échappent à l'approbation ou au scrutin du Parlement, finalement. Et c'est un mouvement qui déplace le pouvoir vers l'exécutif, et ça crée un précédent dangereux. Et surtout lorsqu'on pense à ce contexte où on offre un déni de la réalité VIH-SIDA. Et ce nouveau pouvoir discrétionnaire donné à l'exécutif, sans approbation, sans réglementation autre, sans balise, c'est un problème pour la profession médicale et le VIH-Sida. Le thème de cette conférence, c'est passons aux actes, ce qui présuppose un lien marqué entre les données médicales et la politique. Mais dans un pays comme l'Afrique du Sud, la science, qui fait des percées, est de plus en plus attaquée. Il y a une rupture entre les deux. Si nous sommes sérieux dans notre ambition d'offrir des services compréhensifs et accessibles en matière de traitement et prévention, on ne peut pas faire en sorte que de laisser ce processus qui sépare les bienfaits de la séance et qui les empêche d'être utilisés pour servir les gens qui sont démunis, qui ont besoin de cette aide. On a parlé de l'administration Bush, et c'est vrai. Les politiques de l'administration Bush sur l'échange de seringues, sur la règle du global gag, sur la contraception, et ainsi de suite. Bon, Dieu sait ce qu'ils vont faire avec le vaccin HPV, à savoir s'il sera disponible, rendu disponible aux jeunes, aux ados. Bon, tout ça, ça a été dit, mais il y a un silence les gens gardent sous silence les actions du gouvernement d'Afrique du Sud. Alors, ces problèmes restent entiers et personne n'en parle, ce qui signifie pas pour autant que ce sont des problèmes de moindre importance. Merci, Jonathan. Et si les gens dépassent leurs 10 minutes, pour passer à 15 minutes, ça va toujours, mais après 15 minutes, ils vont s'attirer des ennuis. Notre prochaine conférencière s'appelle Madame Costa Chavez, qui est du Brésil. Elle va parler de l'évaluation de la législation au sujet des droits de propriété intellectuelle dans le contexte de l'OMS et des ADPIC. Voici le contenu de la présentation. Ça faisait partie de mon projet de maîtrise. C'est une étude que nous avons faite au Brésil en 2002, alors qu'on lançait un projet concernant les ADPIC et l'accès aux médicaments. Donc, le contenu de la présentation conteste l'entente des ADPIC, et nous avons examiné les lois qui touchent la santé publique. Nous avons fait une validation du contenu. Avec les ADPIC, tous les pays devraient donner, selon cette loi, selon cette entente, tous les pays devront concéder un brevet aux compagnies qui détiennent la propriété intellectuelle pour les médicaments. Ce qui veut dire que les entreprises peuvent vendre leurs médicaments à des prix très élevés sur une période de 20 ans. Une des recommandations proposées par l'OMS, une stratégie était pour faire en sorte que les médicaments brevetés soient plus abordables, était de mettre sur point, justement, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Carlos Correa disait que une loi qui est sensible aux besoins de santé d'un peuple, ce sont une loi qui incorpore tous les aspects des ADPIC qui permettent au gouvernement de prendre action en matière de santé publique par rapport au prix des médicaments et leur protection par des brevets. La première recherche qu'on a mis au point traitait de cette question. Elle a été publiée en 2004 dans le Bulletin of the World Health Organization. Dans cette étude, on a essayé de mettre au point un cadre pour analyser la loi sur les brevets d'une perspective de santé publique. On voulait faire une étude comparative pour ce qui est du développement du cadre d'études. Nous avons fait une révision de la littérature qui identifiait toutes les souplesses des ADPIC en ce qui a trait aux accès aux médicaments, la validation d'un contenu par le biais d'un consensus des experts, selon la méthode Delphi, le test pour valider le cadre méthodologique et la validation de la structure de l'étude. Donc, comme première étape, nous avons identifié les 6 éléments de souplesse. Et le premier, c'est la période de transition pour donner des brevets, accorder des brevets aux produits et processus pharmaceutiques. Ça fait en sorte que certains pays ne sont pas obligés de d'accorder un brevet aux compagnies pharmaceutiques avant 16 ans, une période de 16 ans. Il y avait aussi la question des importations parallèles, l'utilisation expérimentation, l'exception dite de Bollard, la licence obligatoire et la participation du ministère de la Santé dans l'analyse des prétentions en termes de propriété intellectuelle de la part des compagnies pharmaceutiques qui ont produit des médicaments. La validation de contenu, il s'agissait de vérifier que tous les instruments liés aux aspects qui se rattachent au concept employé dans l'étude. Nous avons identifié 11 experts qui allaient faire une étude de toutes les dispositions de cet accord pour soupeser leur impact sur les questions de santé publique, et eux pouvaient proposer des nouvelles additions à la loi ou des nouvelles dispositions. Nous avons eu finalement la participation de seulement 7 des experts auxquels on a fait appel. Dans le cadre Alors voici le cadre qu'on a fini par se donner. Pour chaque disposition de l'accord, il y avait un pointage donné à droite. Par exemple, la souplesse, donc les dispositions de l'accord avaient seulement un score de 0 si les dispositions des ADPIC ne s'y trouvaient pas. Les pays qui étaient sélectionnés, bon, l'Argentine, le Brésil, la Communauté des Andes, la Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela, c'est-à-dire le Paraguay, l'Uruguay. En Amérique centrale et les îles des Caraïbes, Barbade, Belize, la Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Nicaragua, la République dominicaine, Trinidad et Tobago et en Amérique du Nord, le Mexique. Alors, à chaque pays, nous avons fait une enquête sur le cadre législatif propre à chaque pays. Chaque pays avait un ensemble de lois, ou au moins un accord ou une loi, qui traite des brevets des médicaments. Pour l'Argentine et le Guatemala, j'ai trouvé aussi des dispositions de la loi ou des articles de loi qui ont trait à la confidentialité. Donc, dans ce cadre, on a essayé de définir à quel point la législation concernant les brevets sur les médicaments et la propriété intellectuelle quel genre d'impact ça aurait sur les politiques et les réalités en matière de soins de santé publique. On pouvait voir que plusieurs pays, ou tous les pays, devaient améliorer ou changer leur loi sur la propriété intellectuelle pour être plus sensible et plus souple pour les besoins de santé publique. La Colombie, par exemple, si on l'extrayait de la communauté des Andes, la validation de la structure, la méthodologique. Bon, ici, il fallait valider si notre instrument de recherche mesurait effectivement ce qu'il était censé mesurer. Donc, ce qu'on a fait pour valider la structure méthodologique, nous avons examiné des pays qui sont adhérents à des ententes de commerce. Il s'agissait d'ententes commerciales telles que l'ALENA et l'entente de libre-échange entre l'Amérique centrale et la République dominicaine. Par exemple, le Mexique, ils sont sensibles aux besoins, aux impératifs de santé, de soins de la santé, dans l'ordre de environ 60%. Mais quand le Mexique s'est joint à l'ALENA, on voit que les lois faisaient en sorte que le Mexique pouvait moins répondre aux impératifs des besoins de santé publique. Cette capacité était passée à 45% environ. Donc, le cadre nous permet de mesurer l'impact qu'ont les ententes commerciales entre ces pays et l'impact qu'avaient les ADPIC pour voir à quel point ces pays s'étaient donnés, avec leur cadre législatif, dans le cadre de cette adhérence à ces ententes, assez de souplesse pour pouvoir bien répondre aux besoins de santé publique malgré les impératifs de propriété intellectuelle et de brevets sur les médicaments. Le cadre doit être amélioré, cependant, pour mieux exprimer les souplesses nécessaires pour la santé publique et pour voir si chaque pays peut vraiment se donner ces souplesses dans le cadre des ADPIC, de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Le cadre a un potentiel pour une application pour se faire le suivi des lois dans la durée, les lois sur la propriété intellectuelle, surtout ceux qui négocient des ententes de libre-échange. J'aimerais remercier tous les experts qui ont participé, ainsi que l'École nationale de santé publique, Fiocruz, et aussi le ministère des Affaires étrangères de France, qui nous a aidés dans notre travail. Merci. Notre prochain... Nous avons maintenant Chan Park, qui est du collectif des avocats en Inde. Auparavant, Chan était avocate qui travaillait sur des questions de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, Chan va nous parler de prendre la lutte et la mener sur le terrain des compagnies pharmaceutiques. Oui, j'aimerais vous parler du travail contre les brevets. Les prétentions de brevets que nous menons en Inde pour offrir un plus grand accès aux médicaments. Et j'aimerais remercier Raymond Gainey de la campagne Access en Inde. Sans leur aide et sans leur travail, notre travail aurait été beaucoup plus difficile ou ne se serait pas réalisé. Généralement, j'ai l'habitude de parler d'opposition contre les brevets devant un public c'est un public acquis d'avance, déjà convaincu d'avance. Je sais qu'ici, ce ne sera pas nécessairement le cas, mais avant d'en venir au vif du sujet, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de l'argument pro-forma qu'on entend habituellement, qui défend le système de brevets, comme quoi ce système est nécessaire, absolument essentiel pour encourager les compagnies à développer des nouvelles recherches scientifiques pour en venir à des meilleurs médicaments. Bon. Les incitatifs donnés par le système de brevets cause des problèmes, des déformations. Hein, parce que, bon, on parle de dysfonction érectile, il y a 3 ou 4 produits pour ça, et puis il y a toujours pas de médicaments, par exemple, pour la maladie du sommeil et d'autres maladies qui affectent le sud mondial et les pays en voie de développement. Il y a des millions aujourd'hui qui n'ont pas accès à des médicaments qui pourraient leur sauver la vie. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Et c'est inacceptable, cette situation. Et c'est causé par bien des choses. Mais parmi ces causes principales, il y a la question de la propriété intellectuelle, les brevets sur les médicaments. Il faut retourner cette situation. Alors, pourquoi sommes-nous contre les brevets? Ben, tout d'abord, c'est pour assurer un accès au traitement, et ce, de façon abordable. Ça a été dit 150 000 fois tout au long de la conférence. Les thérapies ARV de première ligne ont coûté 10 000 $ par année par personne. Maintenant, c'est rendu environ à 130 $ par année par personne. La disponibilité de ces produits de première ligne et surtout les médicaments de seconde et troisième ligne de défense ou de traitement ces produits-là sont, cet accès-là est menacé par les prétentions de propriété intellectuelle des compagnies. Et aussi, si on est contre les brevets, c'est que nous, ça nous donne, nous, gens de la société civile, ça nous donne l'occasion d'avoir une influence sur la mise en œuvre et l'interprétation de la loi sur les brevets en Inde. Parce que c'est nouveau chez nous. Parce que les adhiques, ça définit toutes sortes de choses, ce cadre de loi-là, cette entente-là, mais ça ne définit pas qu'est-ce que c'est que la nouveauté en matière de propriété intellectuelle pharmaceutique. Ce qui ouvre la porte à plusieurs interprétations sur le plan national dans les divers pays. Et la société civile a donc l'occasion de se faire défendeur et promoteur de la mise en œuvre d'un système de protection de propriété intellectuelle qui est en harmonie avec les besoins de la santé publique et non pas qui joue contre ces besoins. Pour vous faire parler du contexte indien, vous savez, les compagnies en Inde qui produisent des médicaments tels que les ARV et d'autres médicaments de façon générique, ce sont les plus grandes compagnies qui travaillent dans ce domaine. L'an dernier, l'Inde a lancé une protection sur 20 ans, une protection de brevets sur des produits pharmaceutiques. Et c'était la première fois que ça se produisait. Auparavant, l'Inde ne reconnaissait pas la protection des brevets pour les médicaments, ce qui a permis à l'industrie pharmaceutique indienne de connaître l'essor qu'on connaît aujourd'hui. Cette loi, d'ailleurs, n'est pas entrée en vigueur sans opposition en Inde. Et maintenant, il y a une opposition de la société civile contre cet amendement-là. Et même si la société civile n'a pas réussi pleinement à bloquer l'amendement qui reconnaît le droit du brevet sur les médicaments, on a quand même gagné certaines concessions qui sont très probantes ou qui sont assez critiques pour contrer ce problème. La section 3D, bon... La découverte d'une nouvelle forme d'une substance connue qui ne résulte pas en une amélioration de l'efficacité de la substance ne peut pas être brevetée, ou un nouvel usage pour une substance déjà connue n'est pas considéré une invention sous cet amendement-là. On dirait que c'est de gros bon sens, mais il y a seulement Claim qui donne une telle disposition à son cadre de loi sur les brevets. Et c'est l'article 25 offre la chance d'opposition avant et après l'octroi du brevet. Donc, il y a un système d'appel ou de contestation qui est possible dans le cadre de la loi. Ça y est intégré. Par exemple, cette année, il y a eu une poursuite, un litige au sujet de Gleevec, un médicament pour le cancer de Novartis, et le prix est passé de 2 500 $ par personne par mois pour finir environ à 250 $ par personne par mois. Donc, c'était une victoire sur Novartis qui nous a montré la capacité et le potentiel d'une opposition dans les tribunaux à l'abus de brevets par les compagnies pharmaceutiques. La première contestation était celle qui concernait Combivir de GlaxoSmithKline, une combinaison de AZT de 3TC à dose fixe qui s'était vendue pour partout au monde au montant de plus de 1 milliard de dollars en vente. Les versions génériques fabriquées par les fabricants indiens, bien sûr, sont absolument nécessaires dans le sud. L'hémisphère sud, par exemple. Les programmes MSF utilisent les versions génériques du AZT 3TC. Et 90% de ces médicaments AZT 3TC génériques viennent des pharmaceutiques indiennes. Et le Combivir de Glaxo, vous voyez que c'est une application vraiment pas très futée. C'est un médicament qui combine deux médicaments qu'on connaît depuis très longtemps, l'AZT et le 3TC, qui ne sont pas brevetables en Inde, combinés avec une substance inactive, c'est-à-dire de la silice et puis du talc. Et ce sont des substances ajoutées, de façon très, très élargie dans l'industrie pharmaceutique. Mais ce sont des produits que les pharmaceutiques génériques utilisent aussi lorsqu'ils veulent faire d'un médicament un comprimé, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'evergreening. C'est une pratique où on trouve toutes sortes de astuces pour faire en sorte qu'un brevet dure et perdure suite à certaines modifications vraiment superficielles qui tentent de breveter pour faire en sorte que le brevet qui normalement dure 20 ans dure plus longtemps encore que cette période de 20 ans. Donc les gens qui vivent avec le VIH-SIDA, qui se sont réseautés, ont présenté une demande d'opposition devant les tribunaux, que c'était pas justifié parce que la nouveauté de ce produit était une fausse nouveauté. Et aussi, il y a eu une demande de brevet pour un produit qui est une variante du Combivir, qui s'appelle Combid en Thaïlande, et puis ils se sont vus déboutés. Les groupes Thaï et Indiens se sont ligués pour faire des manifestations devant les bureaux de Klein-Glaxo, SmithKline-Glaxo, que vous voyez ici, ils ont manifesté. Donc, deux jours après la manifestation, le 9 août, en fait, la semaine passée, GSK a annoncé qu'ils renonçaient à une demande de brevet pour cette variante de leur produit. Ils retiraient donc leur demande pour à la fois l'Inde et la Thaïlande. Et les bureaux de GSK en Thaïlande et en Inde ont été sujets d'une manifestation de la part de certains groupes. Suite à ces manifestations, GSK a décidé de retirer sa demande de brevet pour les deux pays ayant trait à une variante spécifique de Combivir. En juin 2006, la GSK a demandé à ses représentants de retirer la demande de brevet, ce qui signifie que GSK n'a pas de protection de propriété intellectuelle sur Combivir, ni en Thaïlande et ni en Inde, et ne cherchera pas à se faire. Mais nous sommes allés, et notre représentant en Inde est allé voir au bureau des brevets, et en Inde, à tout le moins, il n'y a pas eu de demande officielle pour retirer la demande de brevet. Alors, nous avons encore l'intention de faire des pressions sur SmithKline pour qu'ils fassent le retrait définitif de leur demande de brevet pour l'Inde. Donc, voici d'autres oppositions, d'autres demandes d'opposition. Ce sont des groupes de gens qui vivent avec le VIH-SIDA qui, avec leurs avocats, ont pris ces initiatives. On voit la liste de médicaments à l'écran, puis vous allez voir qu'à l'avenir, c'est pas tout. Nous allons contester d'autres demandes de brevets. Alors, les leçons que nous avons retenues de ces oppositions, et ça peut être un outil utile pour s'opposer aux prétentions des pharmaceutiques en matière de propriété intellectuelle. Et ça peut être maximisé lorsqu'on fait lorsqu'on coordonne bien les efforts de promotion de notre cause et puis de publicité par le biais des médias, par le biais de manifestations aussi. Il est critique que la société civile s'engage avec les groupes de gens qui vivent avec le VIH-SIDA, que ces gens-là fassent des pressions sur les gouvernements pour que des protections juridiques soient en place pour pas que ces compagnies pharmaceutiques, justement, abusent de leur droit au brevet. Il faut que chaque gouvernement se donne le maximum de souplesse face aux ADPIC. Et aussi, il faut que les groupes de société civile se donnent plus de compétences et de capacités pour faire valoir leur opposition à ces prétentions de brevet. Donc, quelques recommandations avant que je vous quitte. Bon, il faut habiliter et éduquer les groupes de personnes vivant avec le VIH et la société civile partout dans l'hémisphère sud pour tout ce qui a trait au brevet sur les médicaments. Aussi, il faut que les gens comprennent l'importance de l'accès aux médicaments. Il faut aussi étoffer la capacité en matière de droit de brevet et de sciences pharmaceutiques élémentaires. pour que les gens comprennent mieux et puissent mieux s'opposer à ces activités des pharmaceutiques. Il faut aussi créer un réseau global pour partager l'information stratégique, juridique, technique et scientifique. Nous devons donc mieux partager et mieux communiquer entre nous pour faire avancer cette cause. Nous devons aussi soutenir les mouvements locaux avec des efforts de promotion et de conscientisation par le biais des médias internationaux pour appliquer plus de pression et pour conscientiser les gens. Et finalement, il faut... Tout ce que je vous dis ne vaut rien du tout. Si les pays s'engagent à faire s'engagent dans des traités de libre-échange avec les États-Unis, parce que ces ententes de libre-échange, typiquement, contiennent des dispositions qui vont bien au-delà de ce qui est nécessaire selon l'accord sur les alpiques. Et bon, il y a toutes sortes de dispositions qui favorisent les pharmaceutiques. Donc, tous les gouvernements devraient rejeter des propositions cherchant à faire en sorte qu'ils s'engagent à des accords de libre-échange avec les États-Unis. Alors, voilà, c'est ma conclusion. Et puis, je souhaite à vous tous, à tout le monde, une heureuse journée de l'indépendance de l'Inde.
Yuti Kike, l'associé principal avec le programme RPM Plus Program of Management for Health, et c'est le directeur du programme pour la Namibie. Merci beaucoup à mes collègues pour m'avoir invité. Je vais principalement discuter du sujet suivant. Si on a des médicaments et que les brevets sont plus un problème, est-ce que les processus d'homologation pourraient poser une menace à la disponibilité des médicaments? Je vais commencer par un sujet sur lequel MRMPM plus travaille en Namibie. La Namibie est un des pays qui s'est attaqué directement à l'épidémie de VIH-Sida. Il a été mentionné comme étant un pays où 50% des patients sont admissibles au traitement et nous traitons davantage de patients pédiatriques et de femmes que n'importe quel autre pays africain. Nous avons également reçu du soutien du ministère et nous travaillons principalement à renforcer le système qui administre les programmes antirétroviraux. Donc, on veut améliorer la disponibilité des ARV en rationalisant le processus d'homologation des médicaments. Voici donc un peu de l'information sur le processus d'homologation en Namibie. Nous avons le Medicines Control Council, qui homologue les médicaments et assure la qualité, la sûreté et l'efficacité de ces médicaments. La Namibie est devenue indépendante le 21 mars 1990. Auparavant, les médicaments, on utilisait des médicaments déjà homologués en Afrique du Sud. En 2001, le Medical Control Center a publié un avis concernant les médicaments et la loi sur le contrôle des substances apparentées de 1965. Et tous les médicaments homologués en Afrique du Sud après 1990 sont considérés comme étant homologués chez nous, mais ceux qui demandaient l'homologation recevaient une période de grâce de 6 mois pour commercialiser leur projet. En mars 2004, 2949 demandes d'homologation avaient été reçues, mais seulement 100 d'entre elles avaient été examinées. Nous avons un comité analytique responsable de s'assurer que les demandes des entreprises soient bel et bien examinées, et on aide les entreprises également à soumettre leurs demandes. En septembre 2004, le programme d'ARV national avait été lancé avec des ARV génériques et puis des formules ou des applications pédiatriques. Il fallait évidemment examiner ses applications et ses médecins. Et puis nous avions 49 médicaments génériques de marque et puis des ARVs à simple dose. Tous ont été inscrits sur au registre. Mais à cause du retard accumulé, accéder à toutes les ARV posait un problème. Et comme on peut s'y attendre, il y avait bien sûr des retards, mais le gouvernement s'était engagé et était motivé pour s'assurer que les procédures ne seraient pas un obstacle dans l'accès aux médicaments. Donc, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en déployant des efforts pour s'assurer que ces médicaments seraient homologués rapidement pour les rendre disponibles à travers le pays. Cette diapo tente de vous montrer la situation d'avant la rationalisation du système par le gouvernement. Dans le monde en développement, en publiant, juste au moment de publier notre étude, Soudé est mort soudainement, d'une manière bien difficile. Je crois que certaines des voix que Soudé représentait comme jeune et que sa communauté représente comme personne vivante avec le VIH et comme représentant du Sud, je n'ai pas tant tout le temps de voix qu'il aurait aimé l'entendre en venant ici à Toronto. Il s'essayait d'être guidé par ses voix. Je ne crois pas qu'on réussit toujours, mais c'est notre intention. Le rapport dont je vais vous parler se retrouve à l'arrière de la salle et la présentation PowerPoint peut être consultée sur notre site web au Interfaith Center, au centre interreligieux. Si je passe les diapos trop rapidement, vous saurez où les revoir. L'ICCR est un organisme basé sur la foi, mais c'est également un investisseur. On investit les régimes de retraite des églises en coopération avec certaines universités et centres de recherche. On peut donc se considérer comme étant des propriétaires des institutions, des sociétés pharmaceutiques avec qui on a des discussions et dans lesquelles on investit, et qu'on tente d'encourager de rendre leurs médicaments plus disponibles. Mais pensez-vous, voyez-vous vous-même comme propriétaire de ces sociétés, non pas comme consommateur de produits, mais également comme actionnaire, si vous détenez ou si vous êtes membre d'une organisation musulmane ou catholique ou protestante ou juive, votre régime de retraite est probablement investi dans ces entreprises. Et c'est le point de vue qu'on tente. Quelle société pharmaceutique pourrait faire pour accroître l'accès aux médicaments, et d'un point de vue humaniste et d'un point de vue de fiduciaire. On tente d'équilibrer cette préoccupation et ensuite on tente de déterminer ce qu'ils devraient faire et on regarde ce qu'ils font réellement. Nous basons tout cela sur la base d'une bonne recherche, d'une solide recherche qui a été faite par des ONG, par des groupes d'investisseurs au cours des 5 dernières années. Et notre a priori, c'est que le sida et les maladies négligées représentent un risque financier très important pour les entreprises et notamment les actionnaires des entreprises, des sociétés pharmaceutiques qui ont pris dans leur rapport. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une réaction humanitaire appropriée en tant qu'entreprise, mais ne pas répondre au problème du sida crée un impact financier sur les actionnaires. Ça fait partie importante de notre travail de promotion. Il y a un écart entre les stratégies des sociétés pharmaceutiques et les besoins mondiaux dans la lutte contre le sida. Comment réagissent les sociétés pharmaceutiques? Jim Ken, plutôt, a dit que les sociétés pharmaceutiques sont toujours de 6 mois à 1 an en retard. Ils font des bonnes choses, mais ils le font trop tard. Et ils le font toujours après avoir subi des pressions très fortes de la part de la société civile et des organismes religieux. Est-ce que les sociétés pharmaceutiques pourraient faire des choses à temps, pourraient bouger rapidement pour réagir aux besoins sur le terrain et aux besoins de leurs investisseurs? Que doivent-ils faire? Ce n'est pas exactement rien de génial. Ils doivent avoir des produits disponibles aux gens et ils doivent inventer de nouveaux produits pharmaceutiques qui répondent aux besoins. Des microbiocides, par exemple. La recherche est maintenant accélérée cette année. Elle a été élargie l'année dernière. Mais franchement, ça aurait dû être fait au milieu des années 90, lorsque le besoin était de toute façon apparent. Mais l'industrie a réagi une décennie en retard. On a examiné 70 entreprises pour voir ce qu'ils font sur le VIH-SIDA. On n'a pas examiné toutes les séries pharmaceutiques, mais des entreprises particulières. Que fait Abbott, Bristol Myers et comment pourrait-il s'améliorer? Les conclusions que nous avons trouvées ne surprendront pas personne. Les sociétés pharmaceutiques n'offrent pas un leadership conséquent. Ce n'est pas un échec total. Il y a des sociétés qui implique la responsabilité dans tous les domaines, mais toutes les sociétés, et puis il y a des sociétés qui indiquent la responsabilité dans un domaine, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six. Ils ne savent pas véritablement comment régler le problème de l'accès aux médicaments au-delà de l'Afrique. Puis on peut évidemment débattre s'ils répondent adéquatement aux besoins en Afrique. Cela varie d'une entreprise à l'autre. La plupart des sociétés pharmaceutiques, surtout les américaines, pour les distinguer des Européens, n'apportent pas du tout leurs ressources en recherche et développement pour trouver une solution au problème. Sur les combinaisons à dose fixe, la chose la plus importante ici, c'est Abbott, le fabricant et le fabricant Navir. Produit important parce qu'il rend une dizaine d'autres produits fonctionnellement adéquats. Pourtant, Bricanavir contient le Pinavir, un autre médicament produit et inventé par Abbott. Ce serait un excellent produit s'il était combiné avec un autre produit de Bristol Myers Squibb. Et Bristol Myers a montré qu'on peut coopérer envers entre compagnies, on peut surmonter des questions antitrust. Il est peu clair pour moi pourquoi d'autres entreprises ne profitent pas de la situation, des possibilités de coopération. On établit une distinction très nette entre les sociétés européennes en haut et les américaines en bas, en ce qui concerne les maladies négligées. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est le cas. Un rapporteur m'a suggéré lundi que cela va avoir du colonialisme, mais en fait, les sociétés américaines ne font pas de recherche sur les maladies négligées, les maladies de la pauvreté. Ils ne agissent pas aux échelles du marché. Comme les pauvres ne peuvent pas acheter les médicaments dont ils ont besoin, ces médicaments ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, disponibles par les Américains, comme mon collègue Chad l'a mentionné, plutôt sur le panel. Pour les maladies négligées, on voit un problème semblable. Pas une seule société pharmaceutique n'a même pu atteindre le niveau de nos meilleures pratiques en ce qui concerne les besoins pédiatriques et les formules pour enfants. Aucune entreprise ne fait des systèmes de livraison axés sur les enfants. Des choses peut-être mélangées avec du yogourt ou de la sauce aux pommes. Les gens croient que les sirops qui coûtent cher et difficiles à transporter et qui ont un goût tout à fait dégueulasse soit la solution. Encore, on ne comprend pas ça du point de vue des actionnaires. Les formules pédiatriques sont un cauchemar du point de vue des relations publiques, de même que du point de vue humanitaire. Pourtant, on ne voit pas les sociétés pharmaceutiques essayer de vous des meilleures pratiques dans le domaine. Mais pour continuer, les prix. Une histoire très intéressante ici, ce qu'on trouve, c'est que les sociétés ont adopté des prix différentiels. Ce n'est pas que les médicaments sont abordables, on l'a très clairement établi pendant la conférence, mais plutôt que les sociétés pharmaceutiques ont vu les prix différentiels comme étant une occasion de réagir à la pandémie d'une façon étroite qui ne menace pas la discussion plus large sur la propriété intellectuelle. Ce que nous avons vu, c'est que les systèmes de prix différentiels qui fonctionnent à la fois pour des pays à faible revenu et à moyen revenu. Et c'est là que les entreprises ne sont pas à la hauteur. La différence entre Merck et les compagnies en dessous de Merck, c'est que Merck ont un prix transparent et prévisible pour les pays à faible et moyen revenu. Je laisse de côté pour l'instant la question de savoir si c'est un bon prix. Plusieurs personnes vont dire que non et certaines personnes vont dire que oui. Mais en fait, on peut le lire, c'est sur leur site web. Les autres entreprises ne sont pas aussi transparents. Ils continuent à traiter les marchés africains d'une manière fondamentalement différente des marchés non africains. Au fur et à mesure que la pandémie se répand, cela deviendra une position intenable. J'aimerais maintenant me tourner brièvement sur la question des ADAPIC, parce qu'ils ont reçu beaucoup d'attention, et de façon appropriée d'ailleurs, dans cette séance. L'ADAPIC est déterminée par la politique, et surtout la politique américaine. Et la politique américaine, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissez pas, n'est pas familière avec, et vous devriez être reconnaissant de ne pas l'être, la politique américaine est déterminée par l'argent, et les sociétés pharmaceutiques offrent beaucoup d'argent aux politiciens qui ensuite vont faire la promotion de l'ADPIC. Si on veut regarder l'ADPIC plus, il faut regarder les racines, c'est-à-dire des associations industrielles qui financent cet engagement politique. La seule entreprise qui a fait preuve de leadership là-dedans, c'est Goliath, qui a une approche de refuser de se joindre aux associations pharmaceutiques au niveau national, un choix qui sert à la fois leurs investisseurs et les buts humanitaires. Alors, je vais maintenant passer à chaque société. Je ne veux pas le faire pour toutes, mais j'aimerais parler de Merck, parce qu'ils sont un cas intéressant par leurs inconséquences. ils ont fait preuve de beaucoup de leadership au niveau de la philanthropie. Le programme au Botswana a reçu beaucoup d'attention ici et à Bangkok. Puis ils ont montré un leadership limité dans d'autres domaines. Mais le genre de choses qu'il nous faut vraiment de la part de Merck autour des licences, autour des formules pédiatriques, ils ont été hésitants. Donc l'histoire d'une entreprise comme Merck n'est pas complètement négative. En fait, c'est une histoire de leadership particulier dans le cas du Botswana. Mais ce n'est pas une activité générale qui sert tous les actionnaires qui ont un intérêt dans Merck, à la fois littéralement, en tant qu'actionnaires qui ont de l'argent, et aussi en tant que patients qui vivent avec le sida, en tant qu'activistes. C'est une histoire qui se répète parmi les 15 entreprises. L'expression de la société civile et le leadership interne de certains gestionnaires qui font preuve de soucis par rapport au sida a généré du mouvement dans certains domaines. Mais il n'y a aucun leadership cohérent, aucune volonté d'établir tout l'ensemble de politiques requises. La prochaine question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je vous dirais que le Centre Interfoi, et voici la liste de toutes les compagnies, vous pourrez les consulter plus tard et me poser des questions. Le Centre Interreligieux prend ce travail et en fait un document vivant. On aborde les entreprises, on en a discuté avec une d'entre elles au cours des deux dernières semaines, on a rencontré six sociétés pharmaceutiques au cours des derniers mois, nous mettons cette information dans le domaine public pour que d'autres gestionnaires, actionnaires, activistes, membres de la société civile puissent également les aborder et discuter. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut jeter un regard semblable sur les fabriquer le diagnostic, surtout les diagnostics pédiatriques, un sujet dont on ne traite pas assez souvent lorsqu'on parle de traiter des enfants avec le VIH-SIDA. Et on doit suivre les comportements sur une base annuelle. Ceci reflète un moment dans le temps et c'est compliqué. Mais pour comprendre si oui ou non la société réagit adéquatement, il faut continuer à les suivre et exiger qu'elles continuent d'année en année. Ultimement, on sait que les gouvernements, les fabricants des produits génériques, les communautés religieuses ont beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse avoir un accès juste aux médicaments. Mais ceci n'excuse pas le rôle des sociétés pharmaceutiques, eux aussi ont des problèmes. On a pas mal de temps pour les questions et la discussion. Si les gens veulent bien venir au micro. Et soyez brefs et s'il vous plaît, identifiez-vous et votre organisme. Non, mais ne faites pas de grandes déclarations, le reste est bref. On va prendre trois questions. On demandera à nos panélistes d'y répondre. Et si vous adressez votre question à quelqu'un, dites à qui. Natalia Kadzik, Transatlantic Partnership Against AIDS. Merci beaucoup pour des présentations très intéressantes. Et c'est probablement la deuxième ou troisième séance à laquelle j'ai participé où on parle de la PIC et des prix et de l'accès. Ce qui est très intéressant pour moi dans cette panel, c'est qu'il n'y a aucun représentant des entreprises pharmaceutiques. Pourquoi? N'ont-ils pas été invités? Ont-ils refusé les invitations? Parce qu'il me semble qu'on parle beaucoup de prix maintenant. Si on veut vraiment assurer l'accès aux gens, on doit parler de plus que ça, y compris les services de distribution, les infrastructures, le prix, ce n'est qu'un aspect de l'équation. Tout est bien clair avec l'APIC et tout, mais si on veut avoir une solution systémique à plus long terme, ce n'est pas seulement en étant constamment en opposition, mais en tentant d'atteindre un consensus. Les deux prochaines questions, puis les panélistes répondront. J'ai apprécié ce que M. Mark lui a dit à propos des sociétés pharmaceutiques et la façon dont elles prolongent la durée de leurs brevets. En 2005, plus de 90% des médicaments brevetés traitaient des conditions où il existait déjà des médicaments moins chers. Et donc, ces renouvellements de brevets ne feraient aucun avantage. J'aimerais que le panéliste nous dit ce qu'il pense du fait que la recherche et le développement sont un des prétextes derrière les prix élevés des médicaments. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de discussions sur le fait qu'une bonne partie de cette recherche et de ce développement est faite en coopération avec des établissements financés publiquement aux États-Unis. De même que le fait que le gouvernement américain offre des crédits d'impôt et des subventions pour la recherche et le développement, et surtout dans le domaine pédiatrique. Une autre question? J'aime une posant Jonathan Berger. On a entendu les activistes et la lutte contre le VIH-SIDA et puis les droits de la personne parler de double prix. Mais en Afrique du Sud, il y a un deuxième pilier de l'activisme, celui dirigé contre notre gouvernement. Si cet axe n'existait pas, comment consacreraient-ils leur énergie? Quelle partie de leurs efforts sont dirigés contre les politiques du gouvernement et combien de leurs efforts contre les sociétés pharmaceutiques? Alors, qui aimerait tenter de répondre à la première question? La première question, la présence ou l'absence plutôt des sociétés pharmaceutiques sur le panel. Pourquoi n'est-il pas de représentants de l'industrie pharmaceutique? Eh bien, je suppose qu'ils n'ont pas soumis de résumé. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Mais nous envoyons notre rapport à l'industrie pharmaceutique à la fois sous forme d'ébauche et ensuite sous forme finale. Et puis, une société pharmaceutique nous a renvoyé un courriel disant, « Cher Dan, ce travail a l'air excellent. Heureux de voir que vous nous poussez un peu. Bonne chance. » Une autre société pharmaceutique m'a envoyé 20 pages de commentaires sur deux pages à simple interligne pour critiquer nos erreurs. L'industrie n'est pas monopolitique. Différentes entreprises ont différentes attitudes. Je ne crois pas que quiconque fait campagne sur les produits pharmaceutiques ou qui puisse croire que les infrastructures de la santé, que le leadership politique et les financements publics ne sont pas un élément essentiel de l'élargissement du traitement. Je crois que toutes ces choses sont essentielles. Mais l'industrie pharmaceutique est également centrale. Alors, nous avons décidé de consacrer notre temps sur un élément sur lequel on peut avoir un impact. Nos collègues dans d'autres secteurs de la communauté passent plus de temps sur les autres enjeux. Et la présentation de Jonathan, d'ailleurs, en l'illustre bien. Deuxième question, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Chan, c'est une très bonne question. Juste pour éclaircir les enjeux, il y a deux enjeux séparés mais liés. L'evergreening, le rajeunissement éternel, qui est un problème, et puis l'autre problème, celui des médicaments, moi aussi. L'evergreening, le rajeunissement éternel, c'est la modification constante d'un produit déjà existant, d'un médicament déjà sur le marché. Dans le cas de Combazir, on a deux médicaments séparés qui ont déjà été brevetés. Un des brevets a expiré et maintenant GSK tente d'avoir un monopole sur la combinaison en ajoutant un ingrédient actif. C'est un problème qui est trop répandu. Et la demande de brevets en Inde présentement, il y a pour 10 années de demande de brevets d'accumulés en Inde de 1995 à 2005. Les estimés varient, mais entre de 9 à 11 000 demandes de brevets pour des produits pharmaceutiques ont été soumises. Pendant cette même période, seulement 387 nouvelles entités chimiques ont été développées par les sociétés pharmaceutiques. Alors, ça vous donne une idée. De l'ampleur du phénomène du rajeunissement éternel des brevets auquel se livre l'industrie. Ensuite, il y a les médicaments imitatifs. Une entreprise invente un produit pharmaceutique et toutes les autres entreprises développent leur propre version. Comme par exemple, le problème du fonctionnement érectile est un bon exemple. Et c'est un problème aussi, parce qu'on divertit des ressources. Et cela mine l'argument, le fait que la recherche et le développement sont absolument nécessaires pour développer de nouvelles et meilleurs médicaments. Ils utilisent ces fonds en recherche et développement pour développer des médicaments qui n'ajoutent pas de nouvelles valeurs thérapeutiques par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Il y a également le fait que plusieurs de ces nouvelles technologies sont développées dans les universités et financées par le gouvernement, et c'est parfaitement exact. Il y a un mouvement de plus en plus grand aux États-Unis et dans le monde développé où les étudiants d'université exigent que leurs universités, lorsqu'ils accordent une licence pour leur technologie aux sociétés pharmaceutiques, exigent que leurs brevets ne soient pas exécutés ou qu'ils soient un très bas prix. et qui soient utilisés dans les pays les moins développés. En ce qui concerne la recherche financée par le gouvernement, il y a ce qu'on appelle un marching right, un droit de marche. Si un brevet est financé en partie par l'Institut national de la santé aux États-Unis, le gouvernement américain garde les droits d'intervenir et d'utiliser ce brevet pour des fins publiques. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement de plus en plus fort aux États-Unis pour qu'on exige aux représentants au Congrès qu'ils utilisent ces droits d'intervention pour améliorer l'accès aux médicaments aux jeunes dans le monde en développement.
Je pourrais vous dire là-dessus essentiellement, je pourrais vous suggérer que nous tentions de trouver d'autres façons de financer la recherche et le développement. Je crois que les brevets, cette méthode qui permet aux compagnies de récupérer leurs dépenses en recherche et développement, en nouveaux médicaments, ça semble pas fonctionner. J'ai été présent lors d'une séance où l'éditeur du journal The Lancet, journal médical, il disait, il y a quelques années, personne ne croyait que les Johns pourraient donner ses produits gratuitement. Quelqu'un disait, c'est pas possible de distribuer ces produits gratuitement aux personnes plus démunies. Et quelqu'un disait, mais pourquoi pas? Hein? Peut-être qu'il ne faut pas chercher un modèle où personne ne paye quoi que ce soit, mais pour des maladies de grande importance qui menacent la vie des gens, qui attirent moins de recherches chez les grandes pharmaceutiques, dans ces conditions, peut-être qu'il faudrait de toute urgence trouver d'autres façons de financer la recherche et développement indépendamment du secteur privé. Jonathan, la dernière question, si vous le voulez bien. Oui, merci d'avoir posé cette question. Je me demandais, et ça fait quelques temps que je me demande en quoi ma présentation pouvait être reliée aux autres quatre, et je crois que vous avez trouvé le lien. On passe beaucoup de temps en Afrique du Sud à combattre le déni officiel, et puis essayer de mettre en place le programme de thérapie ARV, que ce soit dans les prisons ou ailleurs, auprès des gens. Et ça veut dire que l'accent sur l'industrie pharmaceutique est un petit peu estompé. C'est estompé un peu et passé au second plan. Non pas parce qu'on a résolu les problèmes d'accès en Afrique du Sud, en ce qui est très au prix, à l'approvisionnement à long terme, mais nous avons été très occupés sur d'autres fronts. Et aussi, non seulement est-ce que le gouvernement a détourné nos attentions, justement, des compagnies pharmaceutiques, étant donné qu'ils ne mettent pas en place les programmes qu'il faut, et puis ils ont une espèce de déni collectif de ce qu'est le VIH-SIDA, ça fait que ça veut dire que les pharmaceutiques continuent à exploiter des prix très élevés pour leurs produits, et nous espérons que d'ici quelques mois, nous allons finaliser une plainte sur laquelle on travaille contre Merck et Evert. Nous allons cette fois-ci parler de la stabilité de l'approvisionnement à long terme. Evert, jusqu'à présent, n'a pas permis à quelques compagnies que ce soit de travailler sous licence, fabriquer sous licence l'opinavir. Et pourtant, d'autres licences ont été octroyées, mais pas pour ces produits-là. À Tripla aussi, les produits Gilead sont soit non brevetés ou les brevets ne sont pas en vigueur en Afrique. Et AstraZeneca les fabrique pour l'instant, mais Merck va garder, par exemple, certains brevets, ce qui fait que certaines combinaisons ne seront pas disponibles. Donc, il y a certains produits qui pourront peut-être être disponibles un petit peu plus tard, de façon générique, mais il reste encore beaucoup de travail. Peut-être que si on avait un ministre de la Santé, un nouveau président, peut-être si les autres fronts avançaient un petit peu, les autres aspects se réglaient, je pense qu'on pourrait traiter ceux qui exploitent la situation depuis trop longtemps et cela en coulisses, subrepticement. Je m'appelle Brooke Baker. Je suis membre de HealthGap. C'est un commentaire et une question. Ce qui est intéressant avec ce panel, c'est que ça met en exergue les problèmes d'homologation des médicaments, la capacité qu'ont les compagnies de mettre sur le marché les médicaments. On parle beaucoup de propriété intellectuelle, de brevets et les problèmes qui s'y rapportent, mais lorsqu'il faut homologuer un produit en accéléré, par exemple, où il y a certains produits que les compagnies refusent d'homologuer pour des petits marchés qui leur paraissent peu attrayants, et on voit le gouvernement américain, par exemple, qui encourage les compagnies, ou plutôt qui cherche à protéger davantage les brevets, la propriété intellectuelle des grandes entreprises pharmaceutiques. Mais j'aimerais qu'on parle justement de cette question d'homologation et puis de l'attention que ça nécessite de la part des militants. Je suis Lyne Smith de l'University Alliance for Essential Medicines. Vous avez parlé de la structure existante de l'entente, l'accord des ADPIC, mais vous pourriez peut-être commenter, si vous le voulez bien, sur des mécanismes ou des cadres alternatifs qui pourraient encourager la recherche sur les maladies négligées, qui donneraient des incitatifs pour la création et la distribution de médicaments dont ont besoin les gens les plus démunis pour soigner la maladie. Jackson Hughes, Université Emory aux États-Unis. Quelqu'un a mentionné le problème des associations professionnelles des groupes compagnies pharmaceutiques qui ont une influence sur le déroulement, leur influence sur les autorités politiques et puis les accords de libre-échange et tout le reste. Est-ce qu'il y a des argents qui circulent dans le sens inverse? Pour ce qui est de l'homologation des médicaments, Jude, la première question, si j'ai bien compris, traitait de l'homologation et l'importance de tout ce qui tourne autour de l'homologation. Oui. C'est pas juste l'homologation mondiale des grandes compagnies, les GlaxoSmithKline, par exemple, au Royaume-Uni, au Pfizer, aux États-Unis, mais l'homologation à l'intérieur même des pays. Il y a des problèmes à ce sujet qui pourraient se faire obstacle à la disponibilité des médicaments, l'accès aux médicaments dans plusieurs pays. Mais la question avait trait, je pense, à comment les militants pouvaient concentrer leurs attentions dans le but de encourager ou forcer les compagnies à homologuer leurs produits dans des pays et des marchés qui n'intéressent pas ces compagnies jusqu'à présent. Il y a les petits pays, par exemple, comme la Namibie ou les pays de l'Afrique. Vous savez, ce sont des petits marchés, c'est pas attrayant sur le plan économique pour ces compagnies d'homologuer leurs médicaments dans ces pays. Mais il faut savoir aussi que certaines de ces compagnies ont des distributeurs dans ces plus petits pays. Et il est la responsabilité de ces distributeurs . C'est à eux d'homologuer ces médicaments sur les marchés en question. Mais ils doivent correspondre, ils doivent prendre les données exigées par les autorités qui font l'homologation dans les divers pays, qui, eux, doivent évaluer ces informations et pouvoir renvoyer des questions ou des demandes d'informations additionnelles à la compagnie. Mais ça ne peut pas être une excuse que Gilead ou Pfizer n'est pas intéressé à venir vendre en Namibie tel ou tel produit. Non. D'abord, il y a un besoin. Il faut que ces médicaments soient soumis pour approbation et il faut que les comités d'approbation puissent identifier tel ou tel produit comme étant un produit nécessaire, critique pour la santé publique du pays et ils devront faire les analyses coût-bénéfice et l'utilité de ce produit par rapport au budget du pays et puis aux priorités. Mais les autorités qui approuvent ou non ces produits. Mais une fois l'homologation, ça fait partie de la liste et ce sont les soins de santé publique à ce moment-là qui doivent défrayer l'approvisionnement du médicament et le fournir au public. Mais même il y a une procédure prévue pour ça dans les systèmes de soins publics qui, eux, devraient faire en sorte de demander le produit. L'homologation est cruciale en Afrique du Sud aussi. Par exemple, la version 600 mg d'Efavirenz, ça a pris 2 ans pour homologuer ça chez nous, même si le comprimé de 200 mg était déjà homologué. La Tamiflu, par contre, ça a pris 2 semaines seulement, et puis ça c'était approuvé. Alors, on voit les priorités politiques. Bon, il faut examiner 2 aspects. D'abord, les recommandations du comité directeur mondial dans le processus qui mène à UNGAS cette année. Ça comprend une recommandation à l'effet que n'importe quel produit préqualifié OMS, par l'OMS ou approuvé par l'FDA américain, l'utilisation de ce produit devrait être permis dans les pays, la loi devrait être amendée, l'utilisation, l'approbation, même avant que l'homologation soit complétée. Il faudrait qu'on change nos lois pour que ça fonctionne comme ça dans tous ces pays. Et il y a une question aussi de homologation régionale. Chaque pays qui se dote de son homologation, son autorité d'homologation, c'est pas réaliste. Il faudrait avoir des autorités régionales qui couvriraient plus d'un pays. La seconde question concerne la coalition universitaire sur l'accès universel aux médicaments. On pourra peut-être prendre la dernière question et ensuite faire une petite conclusion de 30 secondes. Bon, la question en micro 2, Diana Mendoza, journaliste mexicaine. J'aimerais savoir quelle stratégie pourraient les pays de revenus moyens ou de développement moyen pourraient se donner pour avoir un meilleur accès aux médicaments. Aujourd'hui, le ministère de la Santé du Mexique allait sans doute annoncer que le Mexique allait réduire le prix de traitement à 5 000 $ par personne année, ce qui est quand même plus élevé que ce que les pays européens et le Canada payent pour ce traitement. Les membres du panel, une réponse, commentaire sur une des 3 dernières questions et ensuite nous allons conclure. Gabriela, peut-être? J'aimerais simplement dire, pour répondre à la question au sujet des maladies négligées, il y a une initiative pour les maladies négligées, c'est un partenariat public-privé qui tente de combler certaines lacunes du point de vue en recherche et aussi dans le but d'acheminer vers le marché, vers les gens qui en ont besoin, de certains médicaments. Alors, il y a un partenariat public-privé créé à cette fin. 2 autres possibilités, 2 autres cadres qui ne sont pas mutuellement exclusifs nécessairement, mais bon, une façon différente de procéder, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le Price Fund Approach, un fonds où le gouvernement ou une agence privée nomme une maladie X et, bon, ils disent, si vous développez un traitement pour ça, on vous donne un tel ou tel prix, on vous donne le droit de l'exploiter. Alors, ça fait en sorte d'éliminer cette espèce de concurrence là entre les gens qui essaient de breveter tel ou tel médicament, ils se font la concurrence en eux. Mais la technologie, une fois qu'elle a été payée à la compagnie ou qu'il l'a développée, devient propriété publique. Ou il y a Bill Gates qui parlait que lui pourrait financer la recherche. Mais sa condition à M. Gates, c'est que tous les participants dans la recherche partagent cette technologie. Donc, ce sont 2 autres façons de faire la chose. Il y en a sûrement plusieurs autres, mais mon mot de conclusion, finalement, c'est que, bon, il y a beaucoup de choses qui clochent avec le système de brevets actuel et les choses devront nécessairement changer si on veut assurer un accès aux médicaments pour tous. Bon, je pense qu'on peut conclure. Il est l'heure maintenant. Alors merci à vous tous. Oui, nous arrivons à la fin de la séance. Oui, brièvement. Il y a aussi une proposition émanant du Brookings Institute il y a 2 ans environ qui liait les brevets aux États-Unis à des brevets dans les pays moins développés. Si vous avez un brevet dans le pays moins développement, vous perdez votre brevet aux États-Unis et ce serait une loi du Congrès américain. Ce Congrès-ci ne le ferait sûrement pas, mais alors, ce serait une façon assez élégante d'assurer que ceux qui veulent un brevet exécutable aux États-Unis doivent renoncer à leur brevet dans les autres pays, les pays à moindre développement. Mais aussi, en plus du pouvoir moral et éthique apporté par la société civile là-dessus, je pense qu'il y a aussi une espèce de pouvoir financier, et c'est à ce carrefour-là qu'on essaie de travailler, puis il y a encore beaucoup d'occasions à saisir dans ce travail. Merci à vous tous pour cette formidable séance. Alors, si vous avez d'autres questions pour les membres du panel, vous pouvez leur poser en personne.